Bon, ben Jonathan, pour commencer, on va revenir sur la conférence de presse de hier après-midi.
Oui, absolument. C'était... Il y avait quelque chose de surprenant à la conférence de presse hier. Je me suis dit que quelqu'un qui suit moins l'actualité a dû faire le saut. Moi, j'avais l'impression que j'avais peut-être manqué 5-6 conférences de presse, là, parce que le gouvernement nous a habitués à pas trop nous surprendre dans ces points de presse-là, hein, à mettre la table souvent, à télégraphier, à préparer les gens. Or, là, il y a eu deux gros changements hier. C'est-à-dire que le gouvernement nous a parlé finalement de la notion d'un virus qui serait différent, d'un virus qui serait moins virulent. Ça avait été évoqué, évidemment, autant au Québec qu'ailleurs dans le monde, mais dans la prise de décision au Québec, on ne l'avait pas encore senti. Or, là, c'est ce qu'on nous a annoncé. L'autre chose, c'est cette espèce de notion que la situation était sur le point de s'améliorer. Alors qu'il y a quelques jours encore, on nous disait que c'était catastrophique. Bon, là, on comprend que le pic va arriver dans les hôpitaux, mais semble-t-il que selon les projections, le sommet est atteint, le pire serait bientôt derrière
mais
nous.
Mais il y a quelque chose
le gouvernement à prendre des décisions.
Quelque chose que je ne comprends pas, parce que l'INES, là, a publié hier, avant la conférence de presse, puis j'ai communiqué devant moi, où ça dit tout simplement « Depuis la semaine dernière, l'INES n'est plus en mesure de produire de façon fiable le rapport de prédiction sur les risques d'hospitalisation, puisque celui-ci s'appuie sur le nombre de cas positifs déclarés. » Autrement dit, on ne peut pas vous dire ce qui va arriver.
Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression, Paul, que c'est pour la première fois le gouvernement va un peu au casino, là. C'est-à-dire qu'il décide de prendre un gamble, comme on dit, parce que normalement le gouvernement a toujours attendu d'avoir, si on veut, des quasi-certitudes avant d'aller de l'avant. Là, moi, ça faisait quelques jours qu'on me disait en coulisses que les projections semblaient se stabiliser, tout ça. Mais reste qu'on n'a pas la garantie de ça. Ce qui me fait dire que le gouvernement hier a peut-être pris son plus grand risque en matière de, oui, de capital politique, mais même de santé publique depuis le début de la pandémie. Maintenant, est-ce qu'il joue carrément au cow-boy? Non plus. Certains disent que c'est complètement fou, que c'est une catastrophe annoncée. Faut comprendre qu'il y a tout un train de mesures qui demeure, là, tu sais, que ce soit les salles de spectacle, les restaurants, les rassemblements uniquement en bulle familiale, mais assurément, en appelant au retour à l'école lundi, oui, le gouvernement prend un risque. Moi, je pense que c'est un risque qui est somme toute calculé, mais surtout un risque qui vaut la peine d'être pris, parce que je regarde les réactions des syndicats, là. Entre autres, la FAE qui change absolument pas de discours, qui adapte pas son discours, toujours très, 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 j'ai envie de dire presque partisan, très musclé. Là, il accuse le gouvernement d'avoir une vision de Calinours et tout ça. Alors que dans le milieu de la santé, il y a des gens qui nous disent, comme la FMSQ à qui t'as parlé hier, qu'il est temps de travailler différemment. Il y a les syndicats de la santé qui ont dit, bon, ben parfait, on s'entend pour des nouveaux moyens pour maintenir notre monde. On voit qu'on s'en va dans un changement. Il y a un contraste par rapport aux autres vagues. Oui, il y a un risque avec le retour en classe, mais en même temps, il faut aussi écouter les spécialistes comme les pédiatres qui nous disent que le risque est encore plus grand de garder les élèves à l'extérieur des écoles, selon moi.
Je peux-tu te poser une question?
Ben oui.
Et où Daniel Mécan? C'est parce que hier, là, on annonce avec M. Roberge la situation pour le primaire et le secondaire. Okay? Les universités, les cégeps ont fait un petit commentaire, là, mais sans plus. Je trouve ça un peu désolant. Il me semble qu'elle aurait pu être, peut-être pas partie prenante au point de presse, mais on l'entend, je sais pas. C'est comme une...
Je pense, tu l'as évoqué dans ta revue de presse tantôt, je pense qu'il y a une question d'ego aussi un peu là-dedans. Là. C'est-à-dire que si la ministre ou le ministre responsable des études supérieures n'était pas celle qui avait géré la santé pendant la première vague, est-ce qu'elle aurait été aux côtés de Jean-François Roberge et du premier ministre? Moi, je pense que oui. Ce qui est plate, c'est que ça laisse un peu...
Ben moi, j'ai plein de courriels d'étudiants de cégep puis d'étudiants d'université là, qui comprennent pas là, que le message est pas plus clair, puis que il y a un cégep qui décide de reporter la reprise de la session, puis ça a un impact sur les travaux, enfin, le travail estival pour les étudiants. T'sais, c'est tout ça, puis on l'entend pas, puis on la voit pas.
En fait, j'ai l'impression que plus on avance dans les paliers scolaires, plus il y a des gens qui pensent que on laisse pour compte les jeunes qui sont plus vieux, même pour le secondaire. Certains disent, hey, c'est très bien, c'est souhaitable qu'on pense aux jeunes du primaire, qu'on veut tout faire pour les ramener à l'école, mais on parle pas assez des jeunes du secondaire. Puis à l'autre niveau non plus, on parle pas assez des jeunes des études supérieures ou collégiales, universitaires. Je comprends qu'on se dit, ce sont des jeunes adultes.
Ouais,
mais eux autres aussi ont besoin d'encadrement, ont besoin de savoir où ils s'en vont, puis les enseignants, enseignantes aussi au collégial et au niveau universitaire peuvent avoir les mêmes craintes et devraient avoir les mêmes égards, si on veut. Écoute, je suis d'accord avec toi, on devrait l'avoir davantage, malheureusement, c'est pas le cas.
Bon, il y a un sondage Main Street qui a été rendu public hier et qui montre une baisse importante des intentions de vote vers la CAQ.
C'est pas surprenant, on va se le dire, c'est pas surprenant de voir cette baisse-là. Quand je parle aux gens au gouvernement, ils me disent, évidemment, on le sentait. Là, je pense qu'ils sont assez lucides. Par contre, il y a certains bémols que des gens amènent sur certains aspects du sondage. Il faut comprendre que Main Street sonde selon la stratégie du robocall. Là, et ça a tendance, ça, on me dit, à favoriser des fois les partis qui sont à un bout à l'autre du spectre. Là, donc, dans ce cas-ci, Québec solidaire ou le Parti conservateur du Québec. Parce que, entre toi et moi, de voir le Parti québécois qui est au même niveau, c'est-à-dire à 10 % chez les Anglo que les Franco, c'est assez surprenant. Et de voir Québec solidaire qui a le même niveau d'appui à Montréal qu'ailleurs au Québec, ça aussi, c'est surprenant. Mais assurément, il y a une tendance. Et moi, ce que j'ai hâte de voir, Paul, c'est comment le caucus de la CAQ va dealer avec une perte de popularité. Parce que ils n'ont pas été habitués à ça. Le 38 % on arrive, de mémoire, là, on arrive au plancher qu'ils ont eu depuis qu'ils sont en poste. Puis un élu qui me contait dernièrement que la dernière fois qu'ils avaient eu 38%, un élu qui a un peu plus d'expérience, là, tu sais, qui avait un élu plus jeune qui avait été le voir puis qui avait dit « Hey, on est-tu dans le trouble à 38%? » Alors que selon Philippe Giffournier, à 38%, étant donné qu'il y a une forte division du vote des oppositions, il pourrait aller chercher 90 sièges. Donc, évidemment, il n'y a pas de péril en la demeure, mais ça va être intéressant de voir comment le caucus va se comporter, puis aussi comment François Legault va se comporter envers son caucus. Hein? Parce qu'il y a une notion à laquelle je réfléchis souvent, c'est on a dit que ce qui guettait le gouvernement, c'était l'arrogance. Hein? On a souvent parlé de ça, d'être confortable dans les sondages, et tout ça, ça peut t'amener à une certaine arrogance envers la population, mais est-ce que ça peut aussi t'amener à une certaine arrogance envers ton propre caucus? C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui marche de travers ou qui sort du rang alors que tu es à 50 % dans les sondages, c'est assez facile de l'asseoir. Quand tu commences à être en perte de popularité, je le répète, là, je dis pas que la panique est prise, mais genre devant la tendance dans les prochains sondages, est-ce que ce parti-là, est-ce que ce premier ministre-là est habitué à devoir gérer des déceptions, de gérer du mécontentement? Là aussi, il pourrait y avoir éventuellement un test.
Mais la question, c'est vers où vont aller les électeurs qui quittent la CAQ? Des conservateurs du M, le PQ,
ouais, écoute,
les libéraux?
Dans ce sondage, ouais. Moi, je trouve les
pas trop Québec solidaire,
mais donc. Ben... Je pense que le résultat est dopé là, pour Éric Duhaime dans ce sondage-là, entre autres par ses appuis qui sont plus forts dans la région de Québec. Mais je te partage une observation. J'ai hâte de voir comment Dominique Anglade va se comporter dans les prochains sondages, parce que ça pourrait être une alternative pour bien des électeurs qui acquisent déçus. Et puis, tu sais, des fois, on se fait spinner des affaires. Là. Et ce que je vais te dire là, c'est moi qui l'ai suggéré à quelqu'un du Parti libéral. On me l'a pas spiné, mais ça a été confirmé après. Je notais que depuis le début de l'année, je sais pas si tu as vu ça, mais on voit beaucoup plus Dominique Anglade, à mon sens, que les autres chefs de parti, que ce soit Paul Saint-Pierre Plamondon ou Gabriel Nadeau-Dubois. Et on m'a partagé des chiffres parce qu'eux ont du monitoring, là, ils calculent le poids médiatique des différents chefs. Depuis le 1er janvier, Dominique Anglade a occupé 71% de l'espace dans la presse écrite. Si on partage dans les partis d'opposition, là, évidemment, on exclut le gouvernement, et 53% dans les médias électroniques. Donc, il y a vraiment un effort marqué qui est fait de la part de Dominique Anglade. Maintenant, est-ce que son discours, est-ce que ça va résonner? Est-ce qu'il va faire le plein d'appui? Je sais pas, on me parle d'un léger qui viendrait aussi dans les prochains jours. Là. Donc, bien hâte de voir s'il y aura une tendance qui va se dégager.
Et puis, un mot sur le témoignage de Marguerite Blais aujourd'hui devant la coroner là, qui enquête sur l'hécatombe dans les CHSLD.
Ouais, ben écoute, tout d'abord d'un point de vue humain, là, j'ai parlé avec des gens de son entourage qui me rappelaient que Madame Blais, elle est encore très fragile, dit-on. Elle s'était absentée une première fois, on va s'en souvenir, était revenue probablement trop vite au travail. Puis maintenant, on s'en cache pas, on dit que son épuisement est lié à la pandémie, à quel point elle a trouvé ça difficile. On souligne donc qu'elle est encore en congé de maladie, elle a un billet de médecin jusqu'au 15 février. Oui, elle s'est préparée avec ses équipes, donc elle va mieux, mais juste la préparation avec ses équipes, on me dit que c'est venu rebrasser bien des affaires, elle a une certaine fragilité. Bon, maintenant, j'ai aussi envie de te dire que je pense qu'il n'y a pas personne au gouvernement de la CAQ qui s'est levé ce matin en se disant « ça va être une bonne journée aujourd'hui ». Il y a certaines craintes par rapport au passage de Marguerite Blais devant la coroner, là.
Dans le sens qu'elle va parler ou...
dans le sens que Marguerite Blais va donner sa version des faits. Moi, on me dit que demain, ce qu'elle veut faire, c'est d'expliquer comment elle a vu la crise, comment elle l'a gérée. Mais est-ce que ce faisant, puis avec les questions que la coroner Jeanne Kamel va poser, est-ce que ça va mettre en lumière une déconnexion entre la cellule de crise et Marguerite Blais? Parce qu'il y a bien des gens qui ont dit que Marguerite Blais était peut-être un peu le visage, si on veut, du gouvernement en matière d'aînés, mais que son rôle...
Elle décidait pas de grand-chose.
Ben c'est ça. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que Marguerite Blais a tenté de se faire entendre? Est-ce qu'elle a fait des suggestions? Est-ce qu'elle a fait des demandes qui ont été ignorées? C'est là que ça va être important, parce que la coroner essaie de savoir est-ce que le gouvernement savait, est-ce qu'il aurait dû savoir, est-ce qu'il a su à certains moments, et en ce moment, en ce sens-là, peut-être que le témoignage de Marguerite Blais va... En fait, tu sais quoi? J'ai même la certitude que ça va soulever encore davantage de questions, et peut-être ramener la pression pour qui sait, une demande, encore une fois, d'une enquête publique.
Merci, Jonathan. Bonne fin de semaine.
Salut.
Salut. 7h12, les nouvelles de Décarie.